Mes chers amis, je vais commencer par parler aux plus anciens d'entre nous, qui, comme moi, se souviennent de certaines réflexions souvent entendues dans notre Église. Il ne valait surtout pas parler des mystiques. Je me souviens même de certaines religieuses qui, recevant des livres relatant la vie de certains saints mystiques, comme Catherine de Sienne, dont la fête est célébrée le 29 avril, rejetaient violemment ces livres en criant presque « Nous, nous n'aimons pas les mystiques ». Mais pourquoi rejeter les mystiques, ces saints très unis à Dieu? Car ne l'oublions pas, tous les hommes qui brillent vraiment, qui sont unis à Dieu, sont des mystiques. En effet, personne, sauf les idolâtres, personne ne se met à genoux pour prier un objet matériel de nous accorder une grâce. Ainsi, pour prendre un exemple, personne ne prie un mur pour lui demander de s'écarter ou de s'ouvrir. Alors, si vous le voulez bien, je vais essayer de replacer la mystique dans son univers terrestre. Voici que nous essayons de prier, ce qui est parfois difficile, et soudain, diverses distractions nous conduisent vers des objets très matériels. Pourtant, ces objets sont parfois si beaux qu'ils nous font percevoir que la création est vraiment merveilleuse. Et chose étonnante, nous la voyons, cette création. Nous la voyons dans notre esprit qui la contient, bien que la création soit beaucoup plus grande que nous. En effet, dès que nous apprenons quelque chose, dès que nous découvrons ou voyons quelque chose de nouveau, cette chose nouvelle entre dans notre mémoire qui va la contenir. Ainsi, l'espace cosmique que nous découvrons un peu plus chaque jour entre en chacun de nous, et cet espace, nous le contenons. Incroyable, l'espace infini que nous avons découvert est entré en nous et nous le contenons. Nous sommes vraiment émerveillés. Ainsi la création qui nous entoure, qui est infiniment plus que nous, est pourtant entrée en nous, dans notre mémoire. La création infinie est en chacun de nous, qui pourtant sommes tous finis. Mais il y a plus encore. Contemplons la vie. La vie qui grouille sur la terre, c'est inouï. Mais il y a encore plus inouï, ce sont les myriades infinies de détails qui composent, qui font la vie. Nous regardons, nous nous étonnons, nous ne comprenons rien. Certes, ne rien comprendre ne nous étonne pas, car lorsque nous regardons un animal, tout nous surprend en lui. Ainsi, il a des yeux, des pattes, des muscles, des oreilles, et chacun de ces composants est incroyablement différent de tous les autres composants. Et si nous regardons les pattes, par exemple, nous constatons que sur un même animal, toutes ces pattes ont presque exactement la même longueur. Ainsi, les choses qui cependant se sont faites apparemment toutes seules sont toutes incroyablement différenciées et exactement adaptées à la fonction qui est ou sera la leur. Prenons un autre exemple très simple, les poils. Les poils constituent la fourrure de chaque animal, fourrure totalement adaptée au climat, aux saisons et à tout ce qui doit protéger l'animal contre les intempéries. Ces poils, apparemment si vulgaires, sont cependant ce qu'ils doivent être pour le confort de l'animal. Vraiment, quelle merveille la vie que Dieu nous a donnée et qu'il continue de nous donner. Maintenant, tournons-nous vers Dieu et vers la merveille de ses merveilles qu'il qualifia de très bonne. En effet, Dieu a créé une merveille au milieu du monde vivant, l'homme. L'homme possédait déjà tout ce dont il allait avoir besoin, toutes ces choses merveilleuses qui comblent toutes les vies végétales ou animales. Mais Dieu, qui voulait davantage pour l'homme, lui donna une âme faite à son image. Et l'homme devint tellement beau que Dieu s'arrêta un instant pour le contempler. Ce fut le septième jour. Mes chers amis, nous sommes plus qu'émerveillés. Tellement émerveillés que nous n'avons pas de mots pour exprimer notre super émerveillement. Ainsi, chaque homme est une merveille pour Dieu? Stupéfiant. Oui, stupéfiant. Pourtant, il y a un petit détail, ou plutôt un grand détail, qui nous laisse sans voix. L'esprit de chaque homme, pris individuellement, peut contenir toute la création dès qu'il la connaît. Mais, mis à part Jésus-Christ, parole de Dieu incarné, aucun homme ne contient Dieu. Et chaque homme peut se dire, je ne contiens pas Dieu, car Dieu est tout autre, il est le tout autre. Je ne contiens pas Dieu, car c'est lui qui me contient. Je suis en Dieu, pour lui, en chemin, pour répondre à ses desseins. Mais voici pourtant quelque chose qui nous interroge encore. Voici Adam, le premier homme, et son épouse Ève. Et, nous dit la Bible, ils rencontraient Dieu tous les soirs dans le jardin d'Éden. Mais la création était si belle, qu'ils succombèrent à la tentation et au mensonge de Satan. Ils désobéirent à Dieu et ils se séparèrent de lui. Et l'homme se retrouva tout seul au milieu de la création, mais sans Dieu. Et il fut bien malheureux. L'homme pécheur était très malheureux, séparé de son Père créateur. De son côté, Dieu ne renonçait pas à son œuvre. Aussi décida-t-il de s'incarner pour voir comment cela se passait en l'homme. Il envoya son Verbe, sa parole, pour expérimenter l'homme. Incroyable ! Dieu vient chez les hommes pour les expérimenter, ou plutôt pour leur montrer qu'il connaît tout de ce qu'il y a en l'homme. Dieu se fit homme en Jésus-Christ. Et Dieu vécut notre petitesse, notre faiblesse, nos ignorances, nos misères. Il connut aussi les joies des hommes et leur bonheur. Dieu, en Jésus-Christ, sentit aussi la bonté, la charité et l'amour qu'il avait mis dans tous les hommes et que leur péché n'avait pas tout à fait détruit. Jésus, Dieu incarné, était de plus en plus émerveillé par son œuvre. Et par-dessus tout, manifestation étonnante de son amour, Jésus, Dieu, connut aussi nos tentations. Merveille des merveilles de la miséricorde de Dieu. Donc, pour nous, découvrir Jésus, parole de Dieu, qui, pour sauver les hommes, s'incarna dans un corps d'homme, découvrir la vie de Jésus, Dieu fait homme, si proche de tous les hommes créés, n'est-ce pas cela la mystique? Lorsque nous étudions la vie des saints, nous découvrons qu'ils furent tous des mystiques. Peu d'entre eux ont décrit leurs expériences d'union à Dieu, mais ceux qui ont pu ou dû les écrire arrivent toujours à la même conclusion. Je ne peux pas décrire ce que j'ai vécu, je n'ai pas les mots pour le faire. Tous les saints disent s'être perdus en Dieu, et nous savons que tous les chrétiens, même les chrétiens les plus ordinaires que nous sommes tous, nous savons que tous les chrétiens vivent un jour ou l'autre ces choses étonnantes. Il suffit pour le savoir d'écouter les témoignages de gens qui se sont convertis et ont trouvé la foi. De plus, il faut ajouter que tous les saints, dans la mesure où ils comprennent la valeur de la souffrance qui devient bonheur quand elle fait entrer en Dieu, tous les saints ont désiré la souffrance. On dit souvent que seuls ceux qui ont expérimenté ces choses peuvent les comprendre. Mais ces choses, ne les avons-nous pas tous expérimentées? Pour clarifier ma pensée, je vais prendre un exemple. Ainsi, Rosbrock, un grand mystique flamand du XIVe siècle. Rosbrock, durant ses longues oraisons, contemplait souvent les âmes qui prient. À ces âmes, Dieu dit d'abord « Venez ». Les âmes avancent, doucement, comme sur la pointe des pieds. Et Dieu dit, comme pour les encourager, « Entrez !» Les âmes ne savent pas où, mais elles entrent. Et Dieu dit, « Voyez !» Et c'est le bonheur infini des âmes perdues en Dieu. Mais soudain, c'est aussi le constat et le poids de leurs péchés et de ceux du monde. Et les âmes voient qu'elles doivent réparer, faire pénitence, quitter le monde du péché. Alors Dieu peut leur dire, « Sortez !» Oui, les âmes doivent sortir pour réparer les dégâts qu'elles ont commis. Oui, elles doivent aller vers les œuvres. C'est impératif et obligatoire. Les âmes qui prient doivent sortir pour aller servir leurs frères, pour enseigner ou accomplir des œuvres de charité ou de prédication ou d'éducation des jeunes, en fonction de ce que Dieu leur demande. C'est d'ailleurs ce que Jésus, le plus grand de tous les mystiques, a fait et dit durant toute sa vie. Il rencontrait le Père, se noyait dans la Sainte Trinité dont sa divinité était membre. Puis il sortait pour enseigner. C'est ce qu'il demandera plus tard à ses disciples. veillez et priez. Allez, enseignez toutes les nations, faites des disciples. » Incontestablement, mes chers amis, nous sommes tous des mystiques, c'est-à-dire des gens qui prient et s'en vont servir leurs frères. Cela, nous devons le dire et le redire à tous nos amis.